Kiosque Magazine.
Bon matin à tous. Vendredi 5 juin 2015, ici Geneviève Patterson au micro à la co-animation, accompagnée, comme d'habitude, de mes chers acolytes Charles Roy. Bon matin, Charles.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, merci.
Et de Jean-Philippe Vachon. Salut, Jean-Philippe.
Hey, salut, comment vas-tu?
Ça va super bien.
Excellent.
Alors, juste avant de commencer l'émission, on a parlé de chat, de Formule 1 qui va débuter en fin de semaine, mais... paradoxalement, à cet événement, ça a l'air que c'est la journée de l'environnement aujourd'hui. Alors, Jean-Philippe et Charles, que faites-vous pour contribuer au respect de l'environnement? Une chose.
Moi, je fais le tri de mes déchets et je le fais bien. C'est très difficile. Ça me demande de l'effort et il faut que je me renseigne à chaque fois que je jette quelque chose. Donc,
Et toi, Jean-Philippe?
Je fais fort sur le recyclage, mais de là à faire du compost, je suis pas rendu là encore, mais peut-être éventuellement.
Peut-être éventuellement. Ouais. De mon côté, dans l'arrondissement où je vis, il y a seulement le recyclage et la collecte de déchets. Donc, le compostage sera pour plus tard. Donc, aujourd'hui, on parle de plusieurs sujets. De mon côté, je parle de Jerry Boulet, des bébés, de cinéma, de mural et de lecture en libre-service. De votre côté, les gars, vous parlez de quoi?
Ben moi, je vais vous parler à Gatineau. Il y a une belle programmation que la Ville a offerte à ses citoyens, souvent des activités gratuites et familiales. Je vous parle aussi du théâtre de l'Escapade qui présente sa dernière mouture. Le spectacle 3 à Québec, qui est une reprise du théâtre d'aujourd'hui. Et également, je vais vous parler de Julie Picard et de son exposition à Québec.
Super! Et toi, Jean-Philippe?
Et de mon côté, on se déplace à Paris, le Pont des Arts qui est libéré de ses cadenas. Ouais. On aura la chance de s'en reparler. Oui. On parlera du festival de jazz qui s'en vient aussi après les Franco. Et on parlera aussi de B.B. King, mais surtout de Michel Louvain, parce que Michel Louvain, grosse fin de semaine pour lui. Ouais. Malgré le Grand Prix, on voit là, qu'il y a une grosse fin de semaine pour lui en fin de semaine.
Super! Je vous souhaite bonne émission, tout le monde!
Alors oui, je vous parlais des Francofolies la semaine passée, le dévoilement de la programmation gratuite. Et cette semaine, on parle du Festival de jazz, qui est tout de suite après les Francofolies. C'est dans un article de Philippe Papineau qu'on peut retrouver dans le journal Le Devoir. Ça s'appelle « Les grands concerts gratuits à l'enseigne Dubé ». Pourquoi Dubé? Parce que la plupart des artistes ont comme nom un nom qui commence par la lettre B. Alors c'est assez drôle quand même cette année. Alors B.B. King, à qui on va rendre hommage, un hommage posthume évidemment. Il y a Beirut, The Bar Brothers qui sont à l'affiche dans les concerts extérieurs. Et c'est presque une allitération, une programmation extérieure de cette 36e édition déjà du Festival international de jazz de Montréal. Alors, il y a du B partout dans les grands concerts gratuits. Comme j'ai mentionné déjà, il y a les Montréalais de Bar Brothers qui seront là, B.B. King, son hommage et tout ça. Pour les autres, eh bien, toujours plus nombreux qu'aux Francofolies, il faut se rabattre sur l'énumération. Alors, rapidement, évidemment, je ne vais pas tous vous les énumérer parce qu'on en a pour la journée au complet. B.B. King, d'abord, évidemment, comment ne pas en parler? Qui ne serait pas l'éléphant dans la pièce, malgré son triste dernier passage au festival l'an passé, on s'en rappellera. Ce géant du blues qui est mort tout récemment recevra donc un hommage au tout dernier soir du Festival de jazz de Montréal, le 5 juillet, sur la place des festivals. Ce sera gratuit, alors je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui va être là-bas. Deux fois plutôt qu'une, même à 21h une fois, ainsi qu'à 23h, tout de suite après. C'est un spectacle qui sera sous la direction de Guy Bélanger, l'événement qui verra entre autres défiler Bob Walsh, Jordan Officer, Angel Forrest, Kim Richardson, Mike Goudreau. Il y a aussi deux anciens de la voix qui seront là, Brian Teller et Mathieu Olubowski. Au premier jour du festival de jazz, le 26 juin, c'est la formation américaine Beirut qui va mener le concert d'ouverture. Et ça, on le savait déjà, ça avait déjà été annoncé. La bande de Zach Coden qui prépare un nouvel album pour septembre et on risque fort de réentendre tout l'attirail des cuivres, à la fois crève-cœur et explosif. Alors, c'est vraiment très intéressant aussi comme spectacle. À mi-chemin, eh bien, Philippe Papineau nous parle du 30 juin. Ce sera un tour de la troupe montréalaise de Bar Brothers, alors de faire danser la place des festivals avec des chansons de leur dernier album complet, Sleeping Operator, et peut-être même du EP Alta Falls qu'ils ont fait paraître tout récemment également. Alors, plein de surprises pour les amateurs de jazz. Il y a le festivalier aussi qui préfère la musique Sous le ciel bleu et les étoiles, qui aura amplement le choix. Le projet d'ambulatoire West Trains d'Éric Westmillett, dont vous parlez récemment, le collègue Cormier, dans un autre article du journal Le Devoir. Donc, ce sera là tous les soirs à 17h. Il y a les amateurs de rythme latin, sud-américain ou électronique qui noteront la présence de Feisty, de Nomadic Massive, entre autres, alors des noms que moi je ne connais pas, mais si vous êtes amateur de jazz, vous savez de qui je parle. Dans un spectre folk pop, le Festival de jazz de Montréal reçoit cette année de Franklin Electric. Il y a André Papanicolaou également, il y a Adam Cohen, ça c'est un nom que j'adore. Et si on ajoute quelques claviers stellaires, on peut aussi faire rentrer dans cette case le Norvégien Sondre Lerche, qui viendra présenter son 7e album. Alors du jazz, oui bien sûr, il y en a, parce qu'on parle beaucoup de folk pop, de plein de styles différents, mais il y aura du jazz, évidemment. La programmation extérieure vous permettra, entre autres, de voir le vétéran jazzman montréalais Guy Nadon, les Torontois de Pram Trio. Le tromboniste également Jean-Nicolas Trottier, la pianiste américaine Arielle Pocock. Et si vous avez plus d'amour pour le blues, eh bien, le festival consacre aussi sans surprise une très belle part de la grille horaire. Alors, il y en aura pour tous les goûts. Si vous scrutez bien la programmation, eh bien, vous allez noter que plusieurs artistes jouent deux fois dans la même soirée ou alors même deux soirs consécutifs. On ne bandine pas avec les boulimiques de la note bleue. Et si vous voulez avoir tous les détails du festival de jazz, eh bien, c'est au www.montrealjazzfest.com.
Punches with collectors chasing me, cause where I'm from we bank accounts and still ain't got no families. We got keepers killing seeds, manufacturing disease, stand, sit, genuflecting, yo, they break your knees, and death spots you hit for greed, evil deeds they do with ease, who they once was calling mammies, now they calling them nannies, and what's this, you got skills but need master's degrees, or better yet, you got ideas but ain't got ID, and some of them mad rich and no good deed, and some of them mad guilty, but they comfortably got 2020, proof of plenty, and don't wanna see that when conscience gets a grip, this greed's what's enemy, and like them witness. Mind your business, best to find a mind with rover. Ain't no time for supernova, time for being super blunt. Chumps for hunting kids to feed, lead a team of refugees. And if you see it, tell the queen I'm coming for my gabardine.
Alors, j'en ai parlé, justement, en parlant du festival de jazz. C'était Nomadic Massive avec la pièce Where I'm From. Et si je ne me trompe pas, Charles, on se déplace d'un côté particulier.
Oui, c'est ça, Gatineau.
Gatineau, c'est ça. On ne connaît pas tous Gatineau.
Non, on ne connaît pas tous, non. Mais certains vont se déplacer pour se rendre à Gatineau parce qu'il y a vraiment une belle programmation d'été. Écoutez, l'article, je l'ai tronqué. Oui, c'est ça, je l'ai tronqué parce qu'il était trop long. il y a trop de choses à parler. Yves Bergerat m'en voudra pas trop, j'espère. Son article est paru dans Le Droit. Un été culturel chaud à Gatineau, c'est comme ça qu'il titre son article. C'est paru le 28 mai. Le guide Un été chaud à Gatineau, qui regroupe l'ensemble des activités culturelles et patrimoniales, essentiellement gratuites, organisées sur le territoire gatinois, a été dévoilé mercredi de la semaine dernière. Et ce sera une année faste, dit-on. C'est les mots de la mairesse suppléante Myriel Apollon. En évoquant le guide étoffé et une programmation vaste et diversifiée axée sur la famille. Le tout nouveau spectacle aquatique et multimédia prévu au ruisseau de la Brasserie sera le fer de lance de la saveur patrimoniale de la ville. Et ces projections vont nous rappeler qui nous sommes en rappelant notre patrimoine. Ça va être extraordinaire. Entre autres, il y a d'autres choses aussi. La ville a aussi déployé beaucoup d'efforts pour consolider la réanimation des rues Laval, Kent et Aubry. Je ne les connais pas, mais c'est sans doute des rues très passantes. De nombreux artistes et artisans locaux se relaieront dans le centre-ville les vendredis et les samedis. Ça, c'est du 12 juin au 15 août, donc pendant tout l'été. Les lundis de juillet, à la place de la cité, se succéderont Marco Cagliari, Étienne Drapeau, le spectacle Memories, un hommage à Barbara Streisand, puis Damien Robitaille. La relève gatinoise est conviée à cette fête en plein air à travers Gatineau prend la scène. Les lauréats de cette vitrine musicale, Face cachée, Bijou and Son, Saphir, assureront les premières parties des spectacles. Il y aura aussi des cinémas en plein air. Des films seront projetés au bord des rivières des Outaouais, derrière le Musée canadien de l'histoire, le 27 juin et les trois premiers dimanches de juillet dans les cadres de les toutes nouvelles soirées ciné plein air. L'est de la ville n'est pas en reste avec le retour des projections cinématographiques en extérieur, écran de lune et plusieurs spectacles familiaux. Le festival Buckingham en fête revient quant à lui dans une formule complètement renouvelée. Ça, c'est du 9 au 12 juillet. Le parc McLaren accueillera entre autres Caïn, Les Bébés et Alpha Rococo. Et en terminant, le guide donne un aperçu des diverses célébrations, festivals et fêtes nationales qui étayeront l'été. La ville ayant renoué avec le Grand Prix cycliste de Gatineau, cette compétition sportive qui a lieu aujourd'hui jusqu'au 7 juin et qui est intégrée à la programmation estivale. Pour plus de détails, consultez le site web de la ville de Gatineau.
Merci, Charles. Je vous emmène en lecture maintenant dans une autre région du Québec. Je parle de Vaudreuil-Dorion qui offre dorénavant un service de lecture en libre service. C'est un article qui a été publié par Stéphanie Lacroix en date du 2 juin dernier dans la catégorie Actualité et culture du site vivamedia.ca. Alors, 10 boîtes à livres en bois ont été installées dans des lieux publics pour promouvoir la lecture en permettant le libre échange de livres auprès du grand public. Une belle occasion de faire des découvertes littéraires, le projet Ma petite boîte à lecture comportait également un volet médiation culturelle. Alors, pendant 6 semaines, il y a eu 10 ateliers de 3 heures chacun qui ont été effectués avec des jeunes de niveau scolaire, et ceux-ci ont procédé à la décoration des boîtes à partir de la technique du collage et de la mosaïque sous la supervision de l'artiste Monica Brinkman. À 10 endroits, on accueille les boîtes dont la structure de base a été construite par les employés du service des travaux publics de la ville de Vaudreuil-Dorion. Il s'agit des parcs de la Maison Valois, Taux Blake, Esther Blondin, De Bel-Air, Briand, De La Paix, Mozart, de la Place du Mont, du Centre Multisport et de la Gare d'Orion. Alors, pour lire plus en détail sur le sujet, vous pouvez aller sur Viva Media, la lecture en libre service à Vaudreuil-Dorion, au www.viva-media.ca. Alors moi, je trouve vraiment que c'est une super belle initiative. À mon avis, on devrait en mettre des boîtes comme ça à Montréal. Qu'en pensez-vous, les gars?
Bien d'accord.
Mais il y a des projets de lecture vagabonde comme ça qui existent à Montréal. Oui, ça fait très longtemps que ça existe.
Oui, on peut déposer un livre et puis sur les trottoirs et les gens le ramassent, c'est vrai.
Alors, après avoir parlé de Vaudreuil-Dorion et Gatineau, on se déplace maintenant à Longueuil. Lundi, Grégory Charles a fait une grande annonce, en fait. Il a lancé un nouveau sommet des arts de la musique. Alors, c'est dans un article de Caroline Monpetit, toujours dans le journal Le Devoir, qu'on retrouve ça. Alors, oui, c'est un nouveau sommet des arts et de la musique qui va se tenir dans la ville de Longueuil. Le groupe Musique Greg et la ville de Longueuil qui vont investir, en effet, donc environ 2 millions et 1,5 millions sur 3 ans pour financer ce projet-là. Très intéressant. Le sommet qui sera multidisciplinaire va embrasser tous les genres de musique et va s'étaler sur 3 périodes de l'année, alors du 2 au 6 septembre prochain. On prévoit d'ailleurs déjà une série de spectacles lyriques réunissant Grégory Charles et le ténor Marc Hervieux également, qui est d'ailleurs porte-parole de l'événement aussi. On promet d'y présenter en version abrégée tous les plus grands airs d'opéra, le tout qui va se décliner sur 5 jours à la co-cathédrale, spectacle de Saint-Antoine de Padoue. Alors voilà, Longueuil qui accueillera aussi durant ce week-end un spectacle gratuit d'Alex Nevsky qui sera partout cet été, dans tous les festivals. Alors oui. Si vous n'avez pas eu la chance... Il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup Alex Nevsky, en effet. T'es pas tout seul, ça c'est certain. Il y aura aussi un hommage multimédia qui va être aussi gratuit aux 50 ans du groupe Pink Floyd pour ceux qui adorent ce groupe-là. Ce sera à l'esplanade de la place Charles Lemoine, le festival qui pourra aussi se poursuivre dans les restaurants de la rue Saint-Charles. On prévoit aussi un chic-nique au parc. Alors, c'est pas un pique-nique, c'est un chic-nique. C'est pas la même chose. Le sommet qui fera aussi une suite, une pause en fait pour reprendre en décembre avec des spectacles dans les églises de la ville. Donc, c'est ce qu'expliquait la mairesse de Longueuil, Caroline Saint-Hilaire. On devrait aussi pouvoir y entendre l'Orchestre symphonique de Longueuil et le troisième volet du sommet se tiendra le printemps suivant, donc dans près d'un an, avec vraisemblablement des activités de chorale. Alors, le sommet qui veut également servir de vitrine à la ville de Longueuil, au Québec, au Canada, finalement, voire dans le monde au complet. Et le sommet des arts et de la musique sera essentiellement financé par le groupe Musique Greg, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, la ville de Longueuil et des commanditaires privés également. C'est d'ailleurs ce que répond Grégory Charles lorsqu'on lui rappelle qu'il a déjà évoqué la possibilité qu'il y ait trop de festivals à Montréal. Il dit qu'il pense qu'il faut toujours être prêt à se poser des questions et le grand défi, c'est ce qu'il mentionne, c'est d'atteindre un équilibre entre l'offre des services culturels et le public disponible.
Oui.
C'est pas bête quand même.
Oui, vraiment.
Il mentionne aussi que la ville de Longueuil, plutôt, est déjà riche en offres culturelles, mais cette offre-là n'est pas nécessairement harmonisée. Alors, on cherchait un projet identitaire qui servait à nos infrastructures et de nos infrastructures surtout. Alors, l'offre de Grégory Charles qui répondait, semble-t-il, à cette demande-là. Alors, c'est ce qu'on peut voir ce matin dans le journal Le Devoir, un article, comme je vous ai mentionné, du lundi 1er juin dernier.
J'allais au clair de lune, au gré de la fortune, porté par tous les vents de l'univers. Comme un lampion de fête, au-dessus de ma tête, j'ai vu danser un point de lumière. Oh, 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 ma bonne étoile, dans une petite étincelle accrochée au ciel, j'ai vu un feu d'artifice grand comme un soleil. Comme on chante, tu marches comme on danse, et tu me portes chance à chaque instant. Et me voilà roi mage, au début d'un voyage qui ne finira qu'à la fin des temps. Oh, 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 ma bonne étoile, je dors à la belle étoile au cœur de l'hiver, et c'est toi qui me réchauffe, c'est toi qui m'éclaire. Thank you.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Geneviève?
C'est Jour d'Assin avec ma bonne étoile. Parce que, justement, on va parler de bonne étoile tout à l'heure, mais là, tu nous parles de quoi?
Je vous parle, du théâtre de l'Escapade qui fait, dans la comédie policière, sa 21e production. 13 comédiens de la troupe brûleront les planches du studio aménagé au centre de service de Buckingham à compter de vendredi soir afin de présenter « Visa pour l'éternité », une œuvre qui illustre les tribulations meurtrières de la famille Dupuis-Sec. Ce sont les mots de Benoît Sabourin dans son article « Meurtre, humour et paranormal au théâtre de l'Escapade dans le droit ». C'est paru le 3 juin dernier. « Visa pour l'éternité », c'est une trame écrite par Sylvie et Paul Lemay qui se déroule dans un manoir à la fin du 19e siècle. L'histoire s'amorce avec la mort étrange du père de la famille, Achille Dupuis-Sec, campé par François Bastien. Tué par un coup de poignard au cœur, il sera rejoint dans son trépas par son valet, Félix, son gendre Émile et sa bru Clara. De l'au-delà, ces personnages vont s'allier afin de faire démasquer les meurtriers, l'ultime façon de pouvoir obtenir leur ticket vers le repos éternel. Les meurtriers se trouvent inévitablement au sein des membres de sa famille, de la famille encore en vie. Rassemblés à l'intérieur de la demeure d'époque des Dupuis-Sec, ceux-ci auront le droit à toutes sortes de manifestations paranormales. On se retrouve sur scène avec des fantômes et des vivants qui ne se voient pas et ne s'entendent pas. C'est assez loufoque, lance François Bastien, qui incarne le personnage principal. Les morts essaient de fournir des indices, mais il y a la commissaire de police qui n'est pas trop fortuite. Qui n'est pas trop foutu de voir la vérité là-dedans. Ce qui l'intéresse le plus, c'est la bouteille de bourbon. Bah, nous sommes vraiment dans le registre de la comédie d'été, ajoute le comédien. Visa pour l'éternité sera présenté les 5, 6, 7, 11, 12, 13 et 14 juin. Francis Leblanc signe la mise en scène. Quelques comédiens du village d'Orléans feront également partie de la distribution. Les billets sont en vente à la porte ou peuvent être achetés à l'avance à la librairie Rosemary au coût de 17 $.
Et maintenant, je vous amène sur le plateau Mont-Royal afin de découvrir ce quartier autrement. C'est un article qui est paru le 27 mai dernier dans le journal 24 heures. Je parle bien entendu du Vélo Festif Montréal qui a été fondé par Frédéric et Gabriel Campeau. C'est une nouvelle attraction qui était inédite au Canada. Vélo Festif Montréal propose depuis samedi dernier une tournée des bars du plateau à bord de son vélo géant qui peut transporter 17 personnes. Ça a été écrit par Camille Gaillard. Alors le principe, c'est bien simple, c'est une escapade de 2 heures dans les rues du plateau, ponctuée de 2 arrêts dans des établissements licenciés et une pause pique-nique au parc Laurier. Pour 30 $ par participant, chacun aura accès au transport et aux consommations. Notre objectif est que tout le monde passe un bon moment, explique simplement Gabriel Campeau, qui a lancé son projet avec son cousin Frédéric. On ne fait pas du transport ni du tourisme, mais vraiment du divertissement. Selon le principe d'une bicyclette, Vélo Festif Montréal avance à environ 5 km par heure grâce aux efforts concertés des passagers. En tout, le véhicule peut accueillir 16 personnes, plus le conducteur, ajoute Frédéric Campeau. 12 personnes pédalent et le conducteur s'occupe de la direction, des freins et des effets de musique et de lumière. C'est vraiment un concept unique au Canada qui a mûri dans la tête des deux résidents de Rosemont à la suite d'un voyage à Portland l'automne passé. Par la suite, on a commencé à se renseigner pour découvrir que le concept existait aussi en Europe, à Berlin, Londres, l'Italie et l'Asie, à Shanghai et Taïwan, oui, précise Gabriel Campeau. Séduits par l'aspect rassembleur et sportif de l'activité, ils ont alors décidé de se lancer, espérant l'implanter dans plusieurs quartiers à Montréal, oui. Alors, ils ont commencé le week-end dernier avec le plateau et vont ensuite lancer des circuits dans Antique la semaine suivante, l'arrondissement Ville-Marie également. Donc, évidemment, plus d'infos sur leur site web au www.vélofestifmontréal.ca, si je ne m'abuse. Et puis, toujours rapidement en transport, étant donné que la Formule 1 arrive en fin de semaine, il y a une voiture supersonique qui sera accueillie à l'Hôtel de Ville de Montréal. les 6 et 7, 7 juin, de midi à 5 heures, pour répondre aux questions des personnes curieuses d'en apprendre davantage sur, sur ce bolide hors norme. Alors, c'est une voiture de conception anglaise qui marie des technologies issues de l'automobile et de l'avion à réaction. Le modèle original va tenter d'atteindre la vitesse record de 1600 km/h lors d'une course en Afrique du Sud.
Au cours des 4 prochaines semaines, le groupe Héritage Montréal invite les enfants et leurs parents à découvrir le quartier Saint-Henri dans le cadre d'un parcours d'exploration urbaine. Conçu spécialement pour les enfants de 6 à 10 ans, la marche permet de découvrir l'architecture du quartier à travers des immeubles comme des écoles, des résidences et sa caserne. Les enfants auront à remplir un cahier d'activités et seront aidés par leurs entreprises par des animateurs d'Héritage Montréal. L'activité, c'est pas cher, ça coûte 10 $ pour adultes, 5 $ pour enfants, et se déroulera les dimanches du mois de mai, mais c'est terminé. Donc,
ben, ça a dû être super, mais... ils ont peut-être découvert ma maison parce que j'ai grandi à Saint-Henri pendant 8 ans.
Mais attendez, dimanche prochain, le 7 et le 14 juin, ils seront là. Détails sur héritagemontréal.org.
Cool, merci Charles.
Alors, c'est une grosse semaine au Centre Bell cette semaine. Ed Sheeran qui était là mardi soir et hier soir, c'était la chanteuse Lana Del Rey qui était présente. Et sans artifice ni fla-fla, Ed Sheeran qui a réussi à conquérir les quelques 16 000 personnes au Centre Bell avec, pour seule arme, son micro et sa guitare et surtout sa belle voix. Il n'y avait pas de fla-fla, aucun danseur, aucune grosse mise en scène. Vraiment une très belle soirée. Et ça lance le Centre Bell, les activités de l'été. On sait qu'il y a des gros noms qui sont attendus cette année. Il y a U2 qui sera là la semaine prochaine. Il y aura Madonna, Ariana Grande, un paquet de gros noms qui s'en viennent. L'été qui est vraiment commencé à Montréal.
Il nous reste combien de temps? 30 secondes? Non, une minute au moins?
Ah oui.
Parfait. Tu as quelque chose à dire, Geneviève?
Oui, il y a un film qui est sorti, qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « Une nouvelle amie ». On en parle dans le journal Métro d'hier. Le titre de l'article, c'est « Et osons créer à la femme » par Marilyn Letertre de Métro News France. Donc, dans son dernier long-métrage, François Ozon offre à Romain Duri un rôle inattendu. Celui d'un jeune homme qui se travertit pour son plaisir et sa survie, un prétexte pour la réorchestration du masculin et féminin. Et puis le réalisateur, M. François Ozon, dit qu'il avait lu dans une entrevue que Romain Duri rêvait d'incarner une femme. Alors pour lui, qui est dans la composition et la création, bien, c'était l'apothéose du travail d'acteur. Alors, une nouvelle amie en salle dès aujourd'hui.
Parfait, merci Geneviève.
De rien.
On se laisse le temps d'une courte pause, on vous revient tout de suite avec Kiosque Magazine, la suite.
Écoutez, Kiosque Magazine.
Alors Jean-Philippe, est-ce que tu as la clé de mon cœur? C'est la question que je te pose.
Belle question, Charles, et surtout un beau lien avec l'article dont je vais vous parler. Parce qu'on se déplace à Paris maintenant. Le pont des Arts qui est libéré de ses cadenas d'amour. Alors si vous avez déjà été à Paris, vous savez probablement de quoi je parle. C'est une nouvelle qu'on retrouve d'ailleurs, c'est écrit par l'agence France Presse. Il n'y a pas d'auteur comme tel. C'est dans le journal de Devoir de mardi passé, donc le 2 juin. Alors oui, vous en avez peut-être entendu parler, ces fameux cadenas de l'amour. Alors adieu au serment éternel scellé sur la scène. La mairie de Paris a commencé à retirer donc ces centaines de milliers de cadenas d'amour, entre guillemets.
Là, ce qu'on pourrait se demander, c'est ce qu'il va y avoir des divorces
peut-être. Il y a 45 tonnes en poids de cadenas sur ce pont-là. C'est énorme. Et la passerelle qui respire finalement, donc les flancs qui sont libérés de ces verrous, il y avait entre 700 000 et 1 million de cadenas. Donc, ça vous donne une idée. Donc, il y aura peut-être entre 700 000 et 1 million de divorces. On ne sait jamais. Il y a un an, il y a une partie des grilles qui s'était écroulée sous le poids de l'amour de ces cadenas-là. Donc, c'est assez énorme.
L'amour et depuis... est lourd.
Oui, oui, exactement. Et depuis le matin, les services municipaux sont sur le pont, découpant donc à la scie à métaux les grilles chargées de serrures, les empilant à l'arrière des camions avant de les stocker dans des entrepôts. Et la manœuvre qui oblige à fermer le pont toute la semaine, donc qui permettra aux touristes parisiens de retrouver cette magnifique perspective qu'on avait avant l'arrivée de ces cadenas. Alors, c'est une mode qui a commencé en 2008. Je croyais que c'était beaucoup plus vieux que ça, mais ça fait quand même autour de 7 ans. Alors, c'est sûr que ça s'accumule rapidement. Quelques mois plus tard, en fait, on est rendu en 2014 maintenant, une partie du grillage du pont des Arts qui s'effondrait sous le poids des cadenas. La passerelle qui avait dû être évacuée à ce moment-là et la ville qui prenait enfin des mesures en retirant 37 grilles qui supportaient chacune une demi-tonne de ces cadenas-là. Et trois panneaux virés avaient ensuite remplacé un pan de grillage au milieu du pont, laissant présager le début de la fin de cette ère romantico-scellée. Le rite des cadenas qui symbolisait l'amour éternel aurait démarré, semble-t-il, à Rome, popularisé par deux romans à l'eau de rose de Federico Moccia, datant de 92 et 2006, dans lequel le héros et l'héroïne accrochent un cadenas avec leur nom sur le lampadaire d'un pont, s'embrassent et jettent la clé dans les eaux du Tibre. Alors, c'est très mignon, mais tout le monde a voulu faire ça, et disons que ça a donné 45 tonnes de cadenas. Alors, les vendeurs à la sauvette, les kiosquiers aux abords de la célèbre passerelle qui enjambe la scène reliant l'Académie française au Louvre avaient vite flairé le bon filon et proposaient les fameux verrous aux amoureux également. Alors, Paris, qui était la première ville dans le monde à se débarrasser des cadenas, on sait qu'il y en a quelques-unes autres dans le monde qui ont déjà commencé à reprendre cette tradition-là. Alors, bon, ça continue à enlever les cadenas les uns après les autres sur tous les ponts. Malheureusement, mais bon, pour l'instant, on verra dans les prochaines années si une autre ville pourrait réadopter cette nouvelle façon de faire tradition.
Et pourquoi pas faire une murale?
Ce serait une très belle idée, garder les cadenas, les installer sur une murale, justement, pour faire en sorte qu'on garde cet amour-là, justement. Alors, c'est assez particulier. Et si vous avez été dans le quartier, dans le Vieux-Port, en fait, de Montréal, vous allez peut-être remarquer qu'à certains endroits, il y a quelques petits cadenas d'accrochés après les grillages. Alors, j'ai remarqué ça, là, il y a quelques
semaines. Quelques amours clandestins.
Voilà.
Merci.
J'ai grandi sur une île sans mer, aux vagues sèches et grises. Sur les hauteurs, je flottais en visant les autres rives. Des globules métissés circulent dans les artères bouchées du cannibale aux mi-pattes métalliques roulant dans ses bouches qui, à l'aube, crachent les gens qui baillent et les mangent aux heures de pointe. Les titis n'ont pas le temps de leur ville, les passants viennent de loin. Nous, dès qu'on veut profiter d'elle un peu, la vie se complique. Courir sans la forme olympique vous trace le regard oblique. À force de pression constante, la tension va s'estomper par imprudence. Des gens qui s'aiment sans gare se laissent tomber. Je démontre un escargot à la coquille dure à pénétrer, mais le monstre est beau. À chaque retour, vous reconnaîtrez Panam, 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 Panam. Panam, Panam. Une créature de bitume, sa voix ferrée te crie dessus. Chuchote au marteau piqueur, les petits cœurs sont des fissures. Le temps se divise par quatre dans son œsophage. C'est lui la bête, mais c'est nous qui sommes en cage. Sans changer de taille, il grossit au risque de serrer sa ceinture jusqu'à déchirer le périphérique. À part sur l'avenue, tu feras pas 10 mètres sans toucher le mur ou sans qu'on te bouscule face aux fourmis. Je te sens ridicule. Après tout, que serait Batman? Que serait Batman sans Gotham quand le monstre s'assombrit, que les sourires diminuent? C'est à cause des gratte-ciels que les nuages éternuent. Alors l'orage gronde et la foudre précède. Pam pam panam, panam, panam. Même dans ces rares passages, le soleil sait se faire beau. La chaleur accueillie, tel un joli fardeau. Magistral au mois de mai, la joie devient capitale. À demi-nu sur les terrasses, les fraîcheurs sont admirables. Les quais sont florissants, inondés de coulées vertes. Chaque rencontre se change en amicale découverte. Agrippé aux ailes des bateaux mouches, dans les parcs on pique-nique en chantant. Panam, 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 Panam,
Panam. Panam. Non, c'est pas pour Karine Vanache, Charles. C'est vraiment pour Paris. C'est de Oxo Puccino. De quoi tu nous parles, Charles?
Je vais vous parler d'un spectacle qui va jouer au Théâtre de la Bordée ce soir jusqu'au 7 juin. Lorsque Mani Solimaniou a reçu la banale invitation d'évoquer l'Iran, son pays d'origine, au lundi découverte au Théâtre du 4 sous, le créateur était loin de se douter de l'odyssée qu'il entreprenait. Le dramaturge y a puisé un en 2012, un monologue autobiographique sur la quête identitaire qui a obtenu un vaste succès, puis est suivi deux. Et là, on vous présente trois au Théâtre de la Bordée. Éric Moreau, dans Le Soleil, nous en parle. Trois, Je hais un autre, EST. Ça a été publié le 2 juin dernier dans Le Soleil. Le 16e Carrefour international de théâtre de Québec, qui se termine en fin de semaine, en fait son événement signature de clôture en le présentant pour la première fois hors de Montréal. Mani Solimaniou est né à Téhéran, mais il quitte l'Iran deux ans, pour s'établir à Paname, à Paris, puis à Toronto, à Ottawa et enfin à Montréal. Rendu là, il ne se sent pas vraiment iranien, ni tout à fait canadien, ni tout à fait québécois. Trois multiplie les points de vue sur la question identitaire sur la pièce chorale qui réunit une quarantaine d'interprètes d'horizons divers sur scène. Cette fois encore, cette création a obtenu un fort assentiment critique à Montréal. Le metteur en scène et auteur a vraiment hâte de voir l'accueil que lui réservera Québec, une ville beaucoup moins multiculturelle où la question identitaire se pose probablement avec moins d'acuité. Mais ça résonne partout, souligne-t-il. Tout le monde connaît ce sentiment de se sentir étranger, puis il y a la question identitaire québécoise par rapport au reste du Canada. Il y a un lien à faire. D'autant croit-il que l'identité est au cœur de notre réflexion actuelle sur le monde, qu'elle soit consciente ou non. On n'a qu'à voir les gens qui essaient de se définir sur les médias sociaux, un mode de représentation perpétuel. Il y a autant d'angles pour aborder la question identitaire qu'il y a d'identité, conclut-il. Le spectacle est donc au Théâtre de la Bordée jusqu'au 7 juin. Ça s'appelle 3, une mise en scène et un texte de Mani Solimaniou.
Et maintenant, place aux hommages. On reparle des Francofolies. Il y a eu deux articles en particulier à propos de l'hommage qui sera fait à Jerry Boulet et aussi au groupe Les Bébés. Un article dans le journal 24 heures du 27 mai dernier et dans le journal Métro. Dans le journal Métro par Jessica et Monferrat et dans le 24 heures par l'agence QMI. Alors, Alex Nevsky, Arthur H., Les Bébés, 25 ans, Bookman, Expérience, oui, et Corias et son gros orchestre, Radio-Radio en ouverture, Michel Rivard, Les Sœurs Boulet, Vincent Vallière, et un spectacle à Jerry Boulet qui vont occuper la place des festivals des 27e Francofolie, oui, dont la programmation gratuite a été dévoilée la semaine dernière. Et puis, il y a les trois demi-finalistes des Francouvertes, Dylan Perron et Elixir de Gumbo, grand gagnant de la dernière édition, ainsi que Charles-Antoine Gosselin et Émile Bilodeau vont offrir un concert gratuit. Et puis, des artistes qui vont rendre hommage à Jerry, il y en a plusieurs, il y a notamment Brigitte Boisjoli et Olivier Langevin. Pourquoi un hommage à Jerry Boulet? Eh bien, c'est tout d'abord le 25e anniversaire de son triste décès. Alors, voilà. En fait, je viens de me réaliser que mon article parle essentiellement de la programmation des Francofolies et pas tout à fait plus en détail de Jerry Boulet. Alors, j'invite vraiment tout le monde à aller voir ce concert-là parce que Jerry Boulet, c'était vraiment un grand artiste, à mon avis, un grand compositeur avec une plume extraordinaire. Donc, je vous le rappelle, les 27e Francofolies se tiendront du 11 au 20 juin. Vous, les gars, avez-vous une chanson préférée de Jerry Boulet? Qu'est-ce que vous pensez de cet artiste-là?
Moi, j'ai toujours adoré sa période Offenbach.
Ouais.
Et c'est des chansons qui sont éternelles. Là.
Oui, j'allais dire la même
Promenade
chose.
Promenade sur Mars, ces choses-là.
Ouais. Mm-hmm. Oui. Et puis, il avait fait un grand concert à l'Oratoire, on se souvient. Mm-hmm. Il y a le film aussi avec Mario Saint-Amand dans le rôle principal. Donc, vraiment, pour les Franco, pour la programmation, il y a toujours le site web ou un peu partout dans les magazines gratuits à Montréal.
Merci.
Voilà, de rien.
Thank you.
Alors, on a parlé de Jerry Boulet, on a parlé des bébés, et là, on va parler d'une autre très grande légende de la musique québécoise. On parle de Michel Louvain ce matin. La bonne étoile de Michel Louvain, alors, on vous en a parlé tout à l'heure. C'est le moment, on en parle finalement, de cette bonne étoile-là. C'est dans le journal Métro ce matin qu'on en parle par Claude André, donc un article de cet auteur. Après le Collector, l'album de reprise de ses succès qui lui est consacré, et le Félix Hommage reçu au dernier gala de la disque, eh bien, c'est au Centre Bell que la variété québécoise se fera de nouveau couronner par ses fans. Dans la foulée de l'album, il chante Louvain, sur lequel 13 vedettes reprennent les plus grands succès de ce célèbre crooner. La formule sera de nouveau au programme au Centre Bell, mais pas question pour la tête hommagée de s'asseoir sur ses lauriers et d'assister au spectacle des gradins. Alors, il participera à ce spectacle-là. Au moment de l'entretien avec le journal Le Métro, le principal intéressé ne savait pas trop quels seraient les musiciens sur scène, mais il savait déjà que René Simard serait de la partie, Patrick Bourgeois également, Jean-François Brault, Maxime Landry, Daniel Lavoie. Alors, il y a quand même des gros noms qui seront là. Alors, ce qui est particulier aussi, c'est qu'il a donné 8 spectacles la semaine passée. C'est comme ça qu'il en parlait. Et tout le monde parlait de son Gangnam Style au gala Juste pour rire de l'année passée et de l'hommage qui lui a été rendu à la dernière soirée de la disque. Alors, il croit que c'est le top de sa carrière en ce moment. Alors, Michel Louvain, qui a longtemps été boudé par l'industrie de la musique québécoise malgré son succès méga populaire et la consécration qui s'était d'ailleurs déjà amorcée quand le rocker Éric Lapointe avait repris La Dame en bleu et lorsque les Lost Fingers ont revisité ce tube, ou même quand Guillaume Lepage lui a demandé de le chanter avec les Pornflakes, alors c'était plein d'occasions pour lui de briller encore plus. On avait dit à l'époque, lorsqu'il a commencé sa carrière musicale, que bon, il devait se rendre au coin de Pinneuf et d'Ontario. Il y avait un garage et en haut, un studio d'enregistrement. Les musiciens qui l'attendaient, il a chanté Buenas Noches pour la première fois et jamais il n'aurait pensé que sa carrière commencerait à ce moment-là. Évidemment, il était heureux, il était à Montréal et il chantait à l'hôtel Central à Chomedey, alors que son frère, déjà installé depuis des années, chantait pour sa part au Mocambo. Il lui a dit « Tu es chanceux en call-in, tu arrives en septembre, tu changes ton nom de Poulain en Louvain et en novembre, tu entres en studio pour faire ton premier disque. » Sa mère qui lui avait dit à ce moment-là « Tu es né sous une bonne étoile, mon petit gars. » Je pense qu'elle avait bien raison, sa mère, et je crois qu'il reste encore des billets donc pour le spectacle de Michel Louvain qui est demain au Centre Bell.
Ah, quel bel instrument que la trompette! C'était « On the Sunny Side of the Street » par Mrs. Satchmo. Et moi, je vous parle maintenant d'art visuel, je vous parle de mural, témoignage visuel, format extra, extra grand. C'est dans le journal Métro d'hier. En fait, le festival mural débutait hier jusqu'au 14 juin. Un article écrit par Michael Oliver Harding du journal Métro. Et puis, il y a une image d'une méga murale intitulée « Life » créée par Axel Void à Chennai, en Inde, où l'on voit une dame âgée assise sur le bord d'un trottoir. Et elle est représentée sur la murale et elle est assise devant cette murale. Mmh. Il est difficile de croire qu'il n'y a pas très longtemps, une certaine frange de la population méprise encore ces artistes étiquetés de vandales, armés de leurs bombes à aérosols et de leurs pochoirs, exposant leurs œuvres revendicatrices à même la rue, souvent dans l'illégalité la plus totale. Eh bien, aujourd'hui, les collectionneurs d'art payent une fortune pour mettre la main sur un Banksy original. Les marques de bagnoles et de streetwear s'inspirent, sinon volent carrément l'esthétique du street art à des fins publicitaires. Esprit contestataire en moins. Les administrations municipales du monde entier sollicitent ces nouvelles stars de l'art contemporain pour redorer l'image d'un quartier chaud ou d'une rue négligée avec leurs toiles éclatantes. Dans ce contexte de coolitude assourdissante, on oublie parfois les motivations premières ayant animé les Jean-Michel Basquiat, Richard Embolden et autres Keith Haring à laisser leurs traces dans des wagons de métro ou sur des façades d'édifices. Pardon. Heureusement pour nous, le Festival d'art public mural, qui n'en est qu'à sa troisième année d'existence, mise sur bien plus que des artistes, des œuvres massives tape à l'œil ou la visite de vedettes internationales du street art. L'événement qui s'empare du boulevard Saint-Laurent à compter d'hier, et qui s'étend pour la première fois sur 11 jours plutôt que 4, comprend des conférences, ateliers et films rappelant la genèse d'une pratique jadis marginalisée. Parmi les artistes d'ici et plusieurs est d'ailleurs invité à transformer le paysage de la Maine, le travail de l'Espagnol Axel Void, qui en sera sa troisième visite dans notre métropole, s'inscrit dans la continuité des œuvres ayant façonné l'ADN du street art. En entrevue avec Métro, il précise ne pas se considérer, comme un ardent défenseur de quelconque cause, mais plutôt comme un artiste empreint d'empathie pour les gens qu'il rencontre. Or, le simple fait de mettre en scène des gens que la société marginalise donne une dimension politique à son travail. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la méga murale Life qui a été créée en février dernier en Inde, à l'entrée de la station de train Greenways. Eh bien, après avoir passé plusieurs jours à échanger avec les gens de ce quartier défavorisé, Void a arrêté son choix de portrait sur Krishnaveni, une dame itinérante d'un certain âge qui dort et vit devant le mur sur lequel l'artiste lui rend hommage. Sur son site web, il explique qu'à Chennai, on peint souvent des portraits de politiciens et d'acteurs afin de les glorifier, ce qui l'a poussé à aller à l'encontre de cette coutume. Les organisateurs du mural ont judicieusement choisi l'emplacement qui lui sera confié. Alors, situé à quelques pas du métro Saint-Laurent, il s'agit d'un mur appartenant à l'OSBL d'habitation Chambre-Claire, qui s'adresse aux personnes en situation d'itinérance. Lorsqu'on lui en a parlé, Void a confié ne pas savoir ce qu'il prévoyait illustrer, préférant d'abord s'imprégner de l'environnement et laisser ses rencontres déteindre sur l'œuvre. « Je veux éviter l'approche du touriste », affirme-t-il. « Je vais être à Montréal pendant 2 semaines, donc je tiens à connaître les gens du coin avant de me lancer dans la création d'un mur pour rester fidèle à l'esprit du coin. »
Oui, alors c'est le moment de... C'est pas le moment tout de suite d'aller en bref, mais par contre, à la fin d'un article de Josiane Desloges dans Le Soleil, il y a deux cours paragraphes, oui, merci, sur des expositions à Québec. Le premier, c'est une exposition organisée, créée par Fanny A. Lewis, qui expose d'émouvants dessins empreints de finesse regroupés sous l'appellation « Corps étranger ». Ça, c'est à la bibliothèque Gabriel Roy. Des visages et des lignes organiques entre fleurs, arbres et champignons s'y agglomèrent. Nourrie par ses réflexions sur son statut d'immigrante et son identité en mutation, à la fois déracinée et renaissante, la diplômée de l'Université Paris-Sorbonne signe des œuvres composites qui naviguent entre nature et inconscient. En 2011, l'artiste signait l'installation « Au bout du fil, au cercle », faite de portraits de femmes qu'on pouvait libérer en coupant les fils qui les retenaient au plafond. Cette exposition, donc « Le corps étranger », se poursuit jusqu'au 16 juin à la bibliothèque Gabriel Roy. Et finalement, une exposition très chouette pour la famille qui s'appelle « Dehors, dedans », qui a été créée par les Incomplètes. Elle renaît et se morcelle à la bibliothèque Gabriel Roy encore et à celle de Monique Corriveau et Félix Leclerc cet été, avant de s'installer dans la future galerie familiale du Musée national des Beaux-Arts en 2016. En 2013, Marie-Pierre Lebeau et Pierre Brassard, les créateurs, avaient imaginé des maisonnettes de paille, de nuages, d'eau et de bois où les tout-petits pouvaient entrer en contact intime avec des œuvres choisies de la collection des prêts d'œuvres d'art. Cette fois, un espace de lecture jouxte des nouvelles marionnettes baptisées Archipel, Jardin et Fleuve. On y trouve des nouvelles œuvres enveloppées dans les ambiances sonores de Fred Lebrasseur. Ça, c'est jusqu'au 16 juillet. Vous avez le temps, mais vous allez voir, le temps file vite. Pour les informations, le mnbaq.org ou lesincomplètes.com.
Alors, c'est pas un secret pour personne, c'est la fin de semaine du Grand Prix en fin de semaine. Et pour ceux qui êtes un petit peu moins fervents des grandes voitures et des shows de boucan, des choses comme ça, eh bien, pourquoi ne pas vivre le Grand Prix à votre façon, dans le confort de votre salon? Quelques films pour vous qui traitent des voitures. Alors, c'est ce qu'on nous donne ce matin dans le journal Le Métro. Alors, le film Rush, récemment sorti en salle, ça peut être une belle idée, avec Chris Hemsworth, entre autres. Le film Mad Max, qui est sorti en salle il y a pas très longtemps. Il y a un documentaire aussi, 5 étoiles, sur l'étoile de la F1, c'est Senna qui retrace les combats qu'a menés sur la piste, comme en dehors l'idole brésilienne qui est malheureusement disparue trop tôt à 34 ans. Il y a aussi le film français Taxi qui est très intéressant. Alors, quelques petites suggestions. Et si au contraire vous voulez passer un week-end un peu plus tranquille, sachez que c'est le festival de yoga de Montréal en fin de semaine. Okay. Alors, c'est assez à l'opposé du Grand Prix. Mais il y a plusieurs classes qui sont données, si je ne me trompe pas, c'est au Conservatoire de musique qui s'est donné en fin de semaine. Alors voilà, donc il y a plusieurs horaires différents, plusieurs cours, plusieurs méditations, des séances, des ateliers pour les grands et les tout-petits. Alors, si ça vous intéresse d'aller méditer un petit peu, c'est possible.
Et par Geneviève Tremblay, dans le Devoir d'aujourd'hui, dans la section Ici et là, des suggestions de sortie pour le week-end, eh bien, il y en a une intitulée « Bonjour voisin ». Qui habite à côté de chez vous, plus loin sur la rue, un avocat, un poète, un peintre, un chef, une ingénieure. La formule échangée de la fête des voisins réveille les quartiers que l'hiver ou le printemps ont repliés sur eux-mêmes. Des dizaines de citoyens, familles et de comités organisent ce samedi à Montréal, au plus petit village, de Montréal au plus petit village de nos campagnes, une fête informelle ou fraternisée ferme. Tout est possible. Barbecue dans le parc, tournoi de pétanque dans la cour, pique-nique au jardin ou guitare dans la ruelle. Allez, on sort toute la journée de samedi sur le site fêtes-desvoisins.qc.ca. Tendez l'oreille et ouvrez l'œil. Bien des fêtes ne sont pas recensées sur le site officiel.
Une belle initiative, vraiment, du Jardin botanique de Montréal, qui proposera cet été une série de spectacles en plein air toutes les fins de semaine sous le thème « Les arts s'invitent au jardin ». Deux spectacles seront présentés sur la grande scène l'Arboretum, soit Marc Hervieux accompagné d'un quatuor à cordes le 14 juin à 16h et Oliver Jones avec un trio le 23 août. Par ailleurs, une dizaine d'artistes se produiront tous les dimanches à 14h au nord du jardin japonais, de Suzy à Arioli à Antoine Graton, en passant par Florence K, Yann Perrault et j'en passe. Cette série commence le 7 juin avec Diane Tell. Cette année, dans le Vieux-Port de Montréal, il y a une tyrolienne qui a apparu comme ça, boum, après l'hiver. Et les amateurs de sensations fortes âgés de 7 ans et plus pourront vivre 45 secondes de descente pendant lesquelles ils survoleront l'île Bon Secours avant d'aboutir à quelques pieds des eaux du fleuve. C'est au hangar 16 du Vieux-Port de Montréal jusqu'au 31 octobre. Je remercie Geneviève Patterson à l'animation avec moi, Charlevoix. Je remercie aussi à Jean-Philippe Vachon. merci Rémi Hermoso à la régie.
Merci Rémi.
On se retrouve vendredi prochain pour une autre édition de Kiosque Magazine.
Bon week-end, à la semaine prochaine tout le monde.